Plus de 6 ans après sa création, Radio Roizen vous fait vivre chaque dimanche une heure de débrief en direct sur les performances du Stade Rennais. Nouveauté, Rond Central sera diffusé les premiers mercredis du mois pour une rencontre inédite. Toutes les semaines, retrouvez les articles de la rédaction sur notre site www.radio-roizen.com. Suivez-nous sur nos réseaux. Radio Roizen est présent sur Facebook, Twitter et Insta, mais aussi sur Twitch pour les diffusions. Alors, bonne émission! Dès la fin de l'émission, retrouvez le débrief sur Spotify, Deezer, Apple Podcasts et toutes les autres plateformes.
Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur Radio Roizen, c'est Romain, je suis ravi de vous retrouver ce soir pour une nouvelle émission qui vient ponctuer un mois de janvier absolument parfait. Déjà félicitations à nos bleus qui en handball sont sacrés champions du monde depuis quelques minutes. Victoire au bout du bout face au Danemark et ça fait plaisir. Le Stade Rennais également victorieux ce week-end en ouverture de cette journée de Ligue 1. Un doublé de la part de l'ancien Lyonnais Martin Terrier. Nous allons revenir là-dessus avec notre équipe. Ce soir, le Stade Rennais est 9e en attendant la clôture de cette journée, mais qui n'influera pas sur les points du Stade Rennais. Bref, c'est parti pour une heure de débrief avec notre équipe, avec vous dans les commentaires. Bonsoir à toutes et à tous, vous arrivez tranquillement. Pour m'accompagner ce soir, nous avons Léo. Comment vas-tu, Léo ?
Salut Romain, salut tout le monde. Bah écoute, ça va mieux que lundi dernier, hein, qui n'était pas incroyable au niveau de la santé. Là, je retrouve de la forme, donc c'est chouette. Et puis, on couple ça avec le match de vendredi soir qu'on va débriefer tous ensemble. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses à dire. Il n'y a pas que du bon, mais c'est ça qui va en faire un match encore plus intéressant à décortiquer avec vous et puis entre nous, bien sûr.
Exactement. Alors, je ne sais pas ce que j'ai dit pour les Français sacrés. C'est bien les championnats d'Europe, évidemment, pas les championnats du monde. Je ne sais pas ce que j'ai dit. Il portait probablement un petit peu... En tout cas, il ne portait pas chance en 2023. Et désormais, il est là pour toutes les victoires du Stade Rennais. C'est Kylian. Comment vas-tu, Kylian, qui doit savourer désormais les émissions avec les 3 points? C'est encore mieux.
Bah, merci de le reconnaître, en tout cas ça fait encore plus plaisir. Salut Romain, salut l'équipe, salut à tous ceux qui nous écoutent. Et ben encore génialissime de se retrouver dans un climat comme celui-ci ce soir, que de positif à retenir, enfin du moins pour le moment. Donc c'est cool, j'espère qu'on va passer une bonne émission tous ensemble.
Et oui, et puis pour compléter, cette équipe, Mathis est avec nous. Comment vas-tu, Mathis?
Bah, ça va très bien, bonsoir à tous, à ceux qui nous écoutent et à mes collègues. Voilà, ouais, ça va forcément bien après cette belle victoire. Et puis on espère qu'elle va en appeler d'autres, la dynamique est bonne, donc j'espère que ça va se poursuivre. Et comme l'a dit Léo, il y a du bon et du moins bon, donc ça va être intéressant de voir un petit peu les points de vue qui vont risquer de diverger un peu sur ce match.
Et ben voilà, et donc on se retrouve pour une heure exactement avec vous dans les commentaires pour débriefer cette victoire face à Lyon, la fin de Mercato. Bref, pas mal de choses qui arrivent. Bonsoir à toutes et tous, vous arrivez tranquillement dans les commentaires. Merci beaucoup à Mister Nobody qui vient de prendre son 15e mois d'abonnement. Salut RR, encore une émission sous le signe de la victoire difficile, mais les 3 points sont là. Un match en demi-teinte. Extrêmement satisfaisant sur la première mi-temps et on s'est fait clairement peur sur la seconde. Nous allons revenir là-dessus avec notre équipe, les notes, les top flops, bref, c'est parti. Vous êtes sur Twitch, vous êtes sur Facebook, vous arrivez tranquillement. Écoutez, c'est parti. On va commencer déjà par rapport à ce match, je l'ai dit en demi-teinte, à la mi-temps, 3-0 pour Rennes. Je pense qu'on n'aurait pas envisagé la fin de match qu'on a vu. Et le quart d'heure où, clairement, on avait la petite goutte de sueur au front. Mathis, ce match-là semblait un petit peu... Bah, même, il semblait réglé. Surtout que un célèbre dieu Stéphane dit toujours le troisième but est le but le plus important. Le troisième but, il était pour Rennes. Et pourtant, on s'est fait bien peur, Mathis.
Ouais, mais il avait raison, puisque le troisième but nous a quand même permis de gagner. Exactement. Mais blague à part, c'est dommage de se faire peur face à une équipe lyonnaise que j'ai trouvé sans inspiration. Mis à part finalement les deux buts qu'on encaisse, Mandanda n'a rien eu à faire. Il n'y a pas de situation si chaude que ça sur ce match qu'on concède. Donc c'est dommage, mais pourtant, enfin, paradoxalement, on le sentait un peu venir. C'est-à-dire qu'à partir du moment où l'OL réduit la marque à 3-1, vu la manière dont on a entamé ces deuxièmes mi-temps, tu pouvais sentir qu'on pouvait se faire peur. Malheureusement, on s'est fait peur. Heureusement, on repart avec 3 points. Donc c'est un peu ça qui est dommage avec Rennes. Et on pourra aussi reparler de la première mi-temps qui, je trouve, n'est pas aussi bonne qu'on veut le faire entendre, dans le sens où c'est pas toute la première mi-temps qui est bonne. Mais ça, ce sera un autre débat. Donc voilà, moi je te rejoins là-dessus, Romain. Ce match, il est vraiment bizarre parce que Rennes, je trouve, ne fait pas forcément un très grand match. On arrive à en planter 3 et face à une équipe de Lyon qui, pour moi, est à sa place de barragiste sans grand danger offensif, nous a fait peur. Donc ça montre qu'il y a encore du boulot.
Ouais, mais merci également à The Crack Ben Yedder qui vient de prendre son deuxième mois d'abonnement. Bonsoir la team, cette victoire nous fait du bien, week-end très agréable. Allez Rennes, merci beaucoup The Crack Ben Yedder qui s'est abonné avec son abonnement Amazon Prime. Si vous aussi vous avez Amazon Prime, sachez que vous pouvez faire bénéficier la chaîne Twitch de votre choix, c'est totalement gratuit et compris dans votre abonnement. Vous avez juste à lier votre compte Twitch et Amazon Prime, donc merci beaucoup The Crack Ben Yedder pour ton deuxième mois. Kylian, on l'a dit, un match avec deux visages. On va pas se mentir, l'ancien Lyonnais Martin Terrier nous a bien aidés.
Bah ouais, franchement, ça fait super plaisir de le voir à ce niveau-là. Y a eu un premier quart d'heure pour moi où clairement c'était pas ça du tout. Après, on a su monter en régime et avoir 30 minutes un petit peu de folie avec peut-être un petit peu de. Enfin, c'est un grand mot à utiliser, mais peut-être un petit peu de réussite. Mais il a su scorer quand fallait le faire et il a su faire preuve d'un grand réalisme devant le but. Donc ça fait vraiment plaisir de le revoir. Je me souviens, il y a quelques semaines, on était assez triste pour lui, justement, de voir cet état d'esprit un peu limité de sa part. Donc là, ça fait plaisir de le voir, qu'il ait le sourire et de le voir réagir sur les réseaux positivement, surtout.
Oui, complètement, complètement. Léo, on le disait, Martin Terrier qui nous a bien aidés là, en inscrivant ses deux premiers buts de la saison.
Ouais, il nous a bien aidé, mais comme le dit Kylian, en fait, au-delà des buts qu'il met, c'est le retour progressif de Martin Terrier dans le jeu qui est surtout notable, qui est à souligner. Ce match-là, on a vu un Martin Terrier encore plus à l'aise hein, que ce qu'il avait pu nous proposer sur les derniers matchs. Hein. Dans son jeu de positionnement, dans ses petits déplacements très intelligents entre les lignes, on le voyait notamment un petit tandem qui a été visible avec notamment Doué sur ce match-là. On a vu beaucoup de petites situations très intéressantes, je trouve, que ce soit collectivement concernant Martin Terrier ou juste lui à titre individuel. Il me semble que c'est sur le deuxième but, donc je crois le but de Désiré Doué, comment dire, le contrôle de Martin Terrier, la manière dont derrière il s'oriente et qu'il se met face au jeu, c'est un régal de revoir ça. Ça fait vraiment du bien. Alors, on me dira, oui, certes, il n'était pas forcément mis sous pression, mais de revoir Martin Terrier faire ça et de voir qu'à la fin, en plus, ça va au bout, non, c'était un régal.
Ouais. On va revenir
sur l'orientation du jeu, il y avait beaucoup de choses à dire de positif le concernant.
Ouais, on va revenir sur son cas juste après. Messieurs, dites-nous un petit peu quels sont on va faire les top flops. Je vais juste lire les commentaires parce qu'il y en a déjà pas mal. En ce début d'émission, on va faire les top flops et puis on aura évidemment l'occasion de revenir sur Martin Terrier qui s'est bien illustré sur ce match. Antoine qui nous dit une deuxième mi-temps qui a fait peur quand même. Potix qui nous dit ce match ressemble au 4-2 d'il y a 2 ans. Hyper réaliste en première et on recule en deuxième, vu qu'on ne sait pas défendre devant nos buts. Stéphane a été très inspiré en première mi-temps avec le replacement de Terrier en phase défensive. Par contre, vachement moins inspiré sur ses nombreux changements assez tôt dans le match. SkyBZH qui nous parle, salut à toi, du potentiel départ de Lorenza Signon. On va revenir dessus également. On en a un petit peu parlé la semaine dernière, mais on va pouvoir en parler également sur la deuxième partie d'émission. Bruno qui nous dit un super Terrier et un Doué beaucoup mieux, surtout quand il n'est pas personnel. François qui nous dit Matisse qui dégage dans un club qui joue le maintien en top. Plus sérieusement, Terrier qui marque son doublé. Le duo le fait Santa Maria et je veux mettre en avant la solidité dans le domaine aérien d'Arthur Théâtre. Tout à fait. Les tops, les flops, qui sont pour vous les joueurs qui se sont illustrés? Kylian, je te laisse commencer avec tes deux tops.
Et ben pour rester sur la continuité de celui dont on parle depuis quelques minutes, Martin Terrier, forcément. Déjà parce que ça fait plaisir de le voir continuer avec nous, mais j'aime bien son nouveau style de positionnement, justement, avec Stéphane, je trouve ça très intéressant. Ça met en ombre quelques joueurs autour, peut-être, notamment Kalim Wendo, ce qui me désole un petit peu. Mais je suis très content de le voir dans ce registre-là. Et puis, si ça peut le faire briller, tant mieux, parce qu'on sait que si c'est un joueur qui s'il retrouve son grand niveau, ça peut être un joueur exceptionnel pour nous. Donc, c'est cool. Et puis, deuxièmement, Désiré Doué. Comme je l'ai dit plusieurs fois, il faut que je le reconnaisse, parce que je ne suis pas un grand fan du joueur, mais il a vraiment fait une belle prestation. Je suis très content de le voir faire, de le voir proposer des choses comme ça sur son côté. Il a été vraiment très très bon. Il a su faire des choix conséquents et éliminer des adversaires quand il le fallait, sans forcément être excessif sur ses prises de décision, pardon. Donc c'était vraiment super intéressant de le voir à ce niveau, surtout contre Lyon. On avait besoin d'un petit feu follet pour les calmer un petit peu, les Lyonnais. Donc c'était intéressant de le voir à ce niveau.
Ouais. Merci beaucoup à Flyen également pour son mois d'abonnement avec Prime, décidément. Cette émission commence très bien, merci à vous. Mathis, t'es top, est-ce que tu suis Kylian?
Sur Martin Terrier, ouais, forcément. Mais moi, je trouve que ça fait déjà. Alors, c'est peut-être encore une montée en niveau, mais je trouve que ça fait quelques matchs où, dans l'intelligence de jeu, dans l'apport qu'il a dans le jeu, qu'il est déjà au-dessus pour moi, dans cette équipe. Mais là, c'est peut-être encore plus prégnant dans ce match, en effet. Parce que son premier but, pour moi, c'est un but de très grande classe. Sans exagérer, prise de balle dans l'espace libre, qui prend un contre-pied Lovren. Alors, Lovren, c'est pas le Lovren il y a 10 ans,
Il a été
mais c'est un but
affreux
de.
sur le
Non,
but.
c'est vrai,
Il est
mais
affreux.
le premier but qu'il met, c'est un but de niveau Ligue des Champions, sans rigoler. Même la finition, elle est juste
Et
exceptionnelle.
du gauche.
Pour rentrer en pied gauche, donc par rapport à ça, son déplacement, le deuxième but qu'il fait, le décrochage, l'orientation pour retrouver Santa Maria face au jeu, pour la transversale sur Doué. Il y a eu des petites combinaisons avec Désiré Doué dans les petits périmètres qui auraient pu aussi faire mouche. Non, franchement, c'est quasiment un match sans faute de sa part. Et forcément, il est redescendu en deuxième mi-temps, mais c'est tout le collectif qui est redescendu. En termes un petit peu de qualité et d'intensité. Donc pour moi, c'est clairement le meilleur Rennais à mes yeux sur ce match. Et puis en deuxième, Enzo Lefebvre, encore une fois, qui est au milieu de terrain, fait une partie aussi, pareil, à l'image de la première mi-temps sur le temps fort, où les sorties de balle étaient très bonnes, de très bonnes passes trouvées, même en deuxième mi-temps, ça a été un des rares, je trouve, à surnager, être capable de permettre à cette équipe de ressortir. On ne l'a pas beaucoup fait, mais à chaque fois qu'on l'a fait, c'est quasiment passé par lui. Une grosse activité aussi, alors j'ai pas ses stats défensives, mais il a aussi apporté dans ce domaine. Non, voilà, c'est les deux joueurs que je mettrais en avant, en top. Après, en un degré moindre, ouais, je serais d'accord de mettre Théâtre, et on peut aussi mettre Désiré Doué dans le lot à mes yeux. Voilà.
Ouais. Léo, est-ce que tu suis Matisse?
Ouais, je suis Matisse et Kylian sur Martin Terrier, évidemment. Je ne vais pas épiloguer plus que ce qui n'a été fait précédemment. Et en deuxième top, je mets également ouais, Enzo Lefebvre. J'ai beaucoup apprécié son match et moi, il y a quelque chose enfin, vraiment qui me subjugue à chaque fois que je le vois jouer, c'est sa capacité à jouer sous pression. On l'a déjà évoqué, mais encore face à Lyon, on le voit, on le revoit. Et c'est là où, en plus, on est capable de vraiment faire une grosse, grosse distinction par rapport à Santa Maria qui ne dispose pas de cette qualité-là, ou beaucoup moins. D'ailleurs, Santa Maria a été mis deux, trois fois en difficulté face à un pressing lyonnais assez intense, là où il y a une forme de sérénité, intouchable pour le fait dans ce registre-là. Donc voilà. Et sur le plan plus collectif, il a fait un match très solide, et notamment une première mi-temps juste c'était un régal à voir jouer. Ça a été un peu plus compliqué en deuxième jusqu'à sa sortie, mais globalement c'est un des Rennais qui se détache le plus avec Martin Terrier. Et un petit peu plus mitigé sur le cas Désiré Doué, parce que oui, il fait derrière une bonne deuxième mi-temps à partir du moment où Martin Terrier ouvre le score et puis derrière lui enchaîne avec son but. Mais quand je repense à son début de match, hein, j'ai trouvé ça quand même très en demi-teinte. C'était très brouillon, c'était souvent pas mal de mauvais choix, je trouve. Et la deuxième mi-temps, pareil, est à mon sens un peu à nuancer pour Doué. Donc, je ne suis pas forcément pour le mettre dans, on va dire, dans le trio gagnant de ce match-là. Si j'avais effectivement d'en ressortir un troisième, ce serait peut-être plus le match d'Arthur Théâtre, effectivement.
Ok. Bah écoutez, monsieur, moi je vais vous suivre. Martin Terrier, j'ai évidemment, comme tout le monde, adoré son match. Ce retour face à cet OL, on sait que ça s'est pas hyper bien passé pour lui du côté de Lyon. Et on se doute qu'il y a toujours une petite dose d'amertume quand il retourne là-bas, surtout là-bas. Tu l'as dit, Mathis, tu l'as très très bien dit. Son but, son premier but, c'est niveau Ligue des Champions. C'est comment il se l'amène. Alors, enfin, c'est magnifique. Il y a l'appel d'Arnaud Kalimundo qui aide énormément. Mais comment il se l'amène. Tout est fait du pied gauche, hein, si je dis pas de bêtises, le contrôle orient. Je crois qu'il fait un
Non, pied droit, je
crochet.
crois.
C'est pied
Prise
droit,
de
puis
balle
pied
pied droit,
gauche.
ouais.
Je ne sais plus. Mais Lovren est complètement à l'ouest sur. Déjà Kakré foire un peu au début. Lovren est complètement à l'ouest sur cette action-là. Mais la frappe qu'il envoie, l'orientation de son corps, le place. Enfin, c'est magnifique. Donc, non, évidemment, il nous a beaucoup aidé en mettant ses deux premiers buts de la saison en Ligue 1. 4 pour lui au compteur cette saison, puisqu'il en avait marqué un également en Coupe de France et en Europa League. Donc non, non, Martin Terrier évidemment en top. En second, s'il faut en donner qu'un deuxième, je vais également mettre Arthur Théâtre. J'ai évidemment aimé notre milieu, j'ai aimé également Désiré Doué, mais voilà, je vais également saluer la performance d'Arthur Théâtre. Alors dans les commentaires, il y a plusieurs débats. On va pouvoir en parler sur notamment l'entrée de Azor Matuziwa pour sa première. On va en parler, on va juste faire les flops avant. Justement, Mister Nobody qui nous dit le top des remplaçants, Matuziwa, qui fait une bonne entrée, quelques passes
Non,
qui cassent bien les lignes
je suis pas
intéressantes.
d'accord.
Première, justement, on va en parler après, Léo.
Ok.
Valzer qui nous dit top Terrier Santa Maria. Neferu qui nous dit ça fait quelques matchs que Truffert joue à un très haut niveau techniquement, c'est très fort.
Il a fait une très grosse première, ouais. Très très grosse première.
Et j'ai trouvé aussi la semaine dernière un truc faire de bon niveau, je l'avais déjà dit. Mister Nobody, top terrier pour l'apport technique et les deux buts. En deuxième, doué malgré un début de match un peu compliqué, mais après très fort. Valzer qui nous dit, le fait je le trouve tellement précieux dans cette équipe. Également sur Facebook, vous semblez à peu près d'accord. Hein, le fait Santa Maria, on parle de terrier, théâtre. Vous êtes à peu près d'accord. Messieurs, flop, est-ce que. Vous avez des joueurs que vous avez moins aimés sur ce match.
Oui.
J'en vois
Oui.
deux.
Ah, peut-être même trois. Peut-être même trois en
Ça
vrai.
peut aller à trois. Kylian, je te laisse commencer.
C'est à ma connaissance la première fois que je le citais en flop, mais pour moi, mon premier flop, c'est Mandanda. Il n'a pas été inquiété de nombreuses fois dans le match, hein, même sur la fin du match. Quelquefois, j'ai serré un peu les fesses, mais en fin de compte, ils n'ont jamais été réellement dangereux dans notre surface. Donc, je trouve qu'il n'a pas été forcément présent quand il le fallait, notamment sur les deux buts. Peut-être qu'il y avait mieux à faire. Sur les dégagements, encore une fois, j'ai l'impression que c'est de plus en plus brouillon. Il y a des dégagements qui sont de plus en plus hasardeux. Donc, c'est un peu inquiétant pour la suite. On sait que c'est un joueur qui est sur le déclin depuis quelques temps, mais. Je suis pas forcément hypé pour sa prestation, donc pour moi ce sera un flop. Et secondement, je voulais parler de Bourigeaud aussi. Bourigeaud, la deuxième période, c'était assez lunaire. C'était un fantôme, on ne le voyait pas, trop lisible. Et la seconde période aussi de Bélocian, je ne sais plus si c'est sur le premier ou le second but.
Deuxième.
Le Lyon. Le deuxième but, ouais, il fait une erreur, il se fait incendier par Mandanda et il a dû se faire. On se pétait aussi par Théâtre plusieurs fois, je pense, qui lui était dans un état de forme colossal, mais un peu déçu de Bélocian, parce que j'attendais beaucoup plus de lui en l'absence d'Omari. Donc voilà pour moi sur les flops.
Ouais. Ouais, je te suis plutôt. Léo.
Bah, je rejoins Kylian sur Mandanda, effectivement, pas décisif sur les deux buts et notamment le deuxième. Tu dois jamais prendre un but comme ça, clairement. Alors, Assignon, pour le coup, avait mis le même face à Villarreal, donc on peut se dire, oui, ça peut arriver à tous les gardiens, mais en réalité, avec un angle pareil, tu dois jamais, en fait, tu dois jamais te prendre un but de la sorte. C'est pas lui le principal responsable, parce que tu as aussi deux joueurs qui sont en manque complet d'agressivité sur Lacazette, en l'occurrence, Guéladoué et comment Jeannot Bélocian. Donc voilà, ce but-là, mais en l'occurrence Mandanda, lui a sa part de responsabilité dans ce but-là, donc je suis obligé pour moi de le mettre en flop, mais également au regard de son jeu au pied que j'ai trouvé désastreux une grande partie du match, où il ne nous a pas du tout soulagé dans ce secteur-là du jeu. Donc voilà, dans la globalité, moi j'ai pas été fan du match de Mandanda, et si je dois en mettre un deuxième, il y a le choix, hein. C'est vrai qu'il y a le choix, on aurait pu mettre Bélossian qui a pas fait un grand match, mais bon, c'était pas non plus catastrophique, mais c'était pas un grand match, mais c'est surtout le match moi de Guéladoué en fait. Alors il y a Bourigeaud, et c'est vrai qu'il a été cité dans les commentaires, le match de Bourigeaud, et Kylian l'a très bien dit, c'était très très compliqué, surtout en deuxième mi-temps notamment, où on a rien vu de sa part. Mais j'ai plutôt tendance pour le coup à mettre Guéladoué, parce que Guéladoué, alors on le cite comme ayant beaucoup de qualités offensives dans la projection, et même techniquement c'est vrai
qu'on voit
qu'il y a quelque chose, ça pouvait aller encore, c'était ok. Mais par contre, défensivement, c'est toujours aussi criant qu'il y a des lacunes qui sont à corriger. Et c'est... En l'occurrence, moi, il y a quelque chose qui m'a choqué hier à nouveau. C'est le retard qu'il peut avoir dans les prises de décision pour ressortir de manière efficace sur les attaquants lyonnais. Je m'explique. Il y a eu, et notamment pour un très très bon exemple, le but de Henrique. Guéladoué met 20 ans à se rendre compte qu'il doit sortir sur le porteur, alors qu'il a, mais je pense sincèrement... Ouais. Une seconde, s'il a une seconde de temps de réaction en moins, il peut se passer quelque chose de bien plus décisif en notre faveur.
Mais t'as l'impression, ça s'est passé. T'as l'impression que ce but est au ralenti. Quand tu regardes l'action, tu as l'impression que Guéladoué va au ralenti sur ce but.
Exactement.
Et on le voit rêvasser à droite à gauche.
Et moi, ce but-là, en gros, est très représentatif de ce que je reproche à Guéladoué sur justement les difficultés qu'il a dans. Je sais pas si c'est de la concentration, mais en tout cas dans le temps de réaction. Et il l'a fait à plusieurs reprises. Il l'a fait au moins deux fois, dont le but face à Lyon. Et la première fois, ça nous a pas été préjudiciable. Donc voilà, défensivement, je le trouve très light. Alors en première mi-temps, oui, hein, on entendait les commentateurs de Prime nous dire Guéladoué dévore Fofana, mais on doit rappeler que Fofana c'est un jeune minot qui jouait pas à son poste, qui avait été positionné piston gauche dans un système A5 par Pierre Sage, où en plus de ça, on n'utilisait quasiment pas les pistons. Guéladoué, il a jamais été mis en difficulté, et quand tu regardes le gabarit de Fofana par rapport à celui de Guéladoué, où les deux étaient au duel physique, quand ils étaient au duel physique, Guéladoué, il y avait zéro problème pour qu'il le dévore. Mais quand tu lui as mis un vrai client, alors en l'occurrence, je sais plus trop si Nuama passait sur le côté de Guéladoué, pour moi il était quand même plutôt du côté de Truffert
en
faux pied. Ouais, il était du côté de Truffert en faux pied, et Guéladoué avait à gauche Maitland-Niles.
Ouais.
De mémoire. Et Maitland-Niles a fait beaucoup, beaucoup plus de mal, je trouve, à Guéladoué en deuxième mi-temps. Alors, c'était relatif par rapport à la saucée qu'a pu prendre Truffert quand même face à Nouama, où Truffert, ça a été beaucoup plus délicat en deuxième mi-temps. Mmh. Mais bon, bref, voilà. Je ne m'étends pas plus. Guéladoué, sur l'intégralité du match, j'ai trouvé ça trop léger, et sa double responsabilité sur les deux buts, parce qu'il est aussi responsable sur le deuxième but lyonnais. Bon, parti.
Écoute, Léo, moi, je suis parfaitement d'accord avec toi. Je me permets de donner mon avis avant Matisse. Je te suis complètement sur les deux flops. Mandanda, c'est pas de sa faute le deuxième but, mais en fait, le problème de Mandanda, c'est que pour moi, il n'est pas fautif sur les buts, mais il nous sauve jamais, en fait. C'est-à-dire qu'il ne fait pas les parades, on a tous des parades. Moi, j'ai du Koubek, j'ai du Mendy, sur tous les gardiens, j'ai des parades miracle, tu vois. Et depuis la saison dernière, je n'ai pas de parade miracle de Mandanda, j'en oublie potentiellement, mais on a souvent eu des gardiens, on se disait waouh, genre là, il nous a vraiment sauvés, tu vois. Et quand est-ce que la dernière fois on a gagné des points avec Mandanda, je ne l'ai pas en tête. Mandanda, c'est un gardien que j'aime beaucoup, c'est une légende, c'est étant gardien moi-même, voilà, c'est incroyable d'avoir quelqu'un comme ça, il y a énormément d'apports, etc. Mais sur le terrain, ben, en fait, je ne lui en veux pas, si tu veux, sur les buts, mais le fait est qu'à chaque fois, j'ai le même sentiment où ben, c'est con parce qu'en fait, il ne nous sort rien ce soir, tu vois. Et donc, je suis d'accord avec toi pour ça, je le mets en flop. Et l'angle du deuxième but, c'est dommage parce que s'il resserre un peu mieux son genou, l'angle doit jamais passer, quoi. Donc voilà. Et Romain, il nous a sauvé beaucoup de fois l'année dernière, le match à Lille, à Paris. Oui, tu as raison, Valzer, tu as raison. contre Paris, il a été monstrueux. Ouais, t'as totalement raison. Mais du coup, Mandanda pour moi sur ce match et Guéladoué, qui, je suis d'accord, ça a été compliqué. L'entrée d'Henrique lui a fait beaucoup de mal aussi sur son côté. Donc voilà, un petit peu en dessous. Et tu as totalement bien résumé pour le deuxième but. Il est au ralenti. Donc voilà.
Premier, Henrique plutôt.
C'est le premier, oui, pardon. Où il est totalement au ralenti. Voilà. Mathis.
Ouais, moi je suis d'accord sur Mandanda. Alors pour te répondre, la dernière fois, la seule fois probablement où il nous ramène des points, c'est contre Toulouse, où il fait deux arrêts, notamment en première mi-temps et en deuxième sur un coup franc de Siro. Mais c'est vrai que globalement, Mandanda, on est en droit d'en attendre un peu mieux. Donc oui, sur ce match, moi je le mets en flop. Pour moi, les deux buts, le Mandanda d'il y a 10 ans, il est sort. Je trouve que le premier but, il ne fait pas écran, il est très très long à se coucher, alors que la frappe d'Henrique n'est pas si bien placée que ça. De mémoire, parce que moi j'étais au stade, hein, mais j'ai revu les buts rapidement et j'ai pas trouvé que la frappe était forcément inarrêtable. Et le deuxième, ouais, je pense que quand t'es gardien, t'as pas le droit de prendre ce genre de but, même si l'erreur initiale ne vient pas de lui. Hein, c'est un peu, encore une fois, un but, comme disait Genesio l'année dernière, des buts risibles. Mais voilà, Mandanda, et puis comme pareil, le jeu au pied n'a pas été flamboyant, chose que je trouvais l'année dernière qui était plutôt au point chez lui. On retrouve un peu moins cette saison, enfin, au moins vendredi. Et puis moi, j'ai envie de pointer autre chose. Alors, je suis assez d'accord hein, sur les joueurs qui ont été mentionnés globalement. Moi, j'ai envie de pointer l'apport inexistant des rentrants. Quoi. Alors, moi, on en reparlera. Oui. Matuzima, je suis plus nuancé. Je trouve pas qu'il fait une entrée si mauvaise que ça. Mais alors, par contre, Salah…
Non, elle n'est pas mauvaise.
Oui. Mais en tout cas, voilà, Salah, Yildirim, pour le coup, là, c'était terrible. Enfin, ils ont souffert de la comparaison avec Terrier, même à Kalimundo qui a fait son match, hein, qui a fait globalement ce qu'il avait à faire sans être étincelant. Et malheureusement, on voit que le banc est assez limité dans ce cas de figure, quoi, où il manque un Guiri qui n'était pas en forme, qui aurait sans doute apporté mieux. Donc voilà, moi, c'est ça que je veux pointer sur ce match, où vraiment, globalement, les changements et ceux qui sont entrés n'ont pas apporté ce qu'ils devaient apporter.
Ouais. Mathieu, qui notre entraîneur des gardiens, qui nous dit dans les commentaires, Mandanda, notamment le premier plutôt, premier but, il n'est pas décisif, mais pas responsable, comme je disais. Alors effectivement, vous me remontez le match de Lille la saison dernière. Pour être honnête, j'ai plus le souvenir du nul contre Lille. Pour être honnête, j'ai pas une énorme mémoire sur les matchs des saisons passées. C'est souvent des actions qui me restent en tête plus que des matchs, mais je vous crois tout à fait. Je me souviens bien du match de Paris, par contre, effectivement, où là, il avait écœuré les Parisiens. Mathieu qui nous dit, justement, le premier but est plus gênant contre Mandanda que le second, selon moi. Franchement, sur les deux, c'est discutable. Valzer qui nous dit on était catastrophique à Lille, on prenait vague sur vague, il nous sort 6-7 arrêts décisifs. Sûrement, je vous crois honnêtement, mais
mais d'accord, mais à ce niveau-là, on peut aussi raisonner comme ça en disant que Cheick Ndiaye il nous tient le 2-1 face à Paris en 2012, quoi. Enfin, ou que Gomis il nous garde la, que Gomis il nous garde, non mais je taquine,
non,
mais
y a pas
que Gomis, que Gomis il nous garde la victoire face à Strasbourg au Roazhon Park il y a 2 ou 3 ans sur une tête de Jairzinho Niamzi. Enfin, c'est pas parce qu'on met en avant le fait que Mandanda.
Oui, mais si, parce que mon argument c'était que j'avais pas de parade mémoire, tu vois. Pardon ?
C'est par rapport à cette saison que tu disais.
Depuis la saison dernière, honnêtement, dernière, j'ai pas de match mémoire, mais vous avez raison de rappeler Paris et du coup probablement Lille. Vous avez raison également dans les commentaires, les changements sont beaucoup pointés du doigt. Au-delà des changements, c'est le banc, comme dit Antoine, qui est vraiment très compliqué. Les changements, d'une part, c'est vrai que quand tu fais rentrer ces joueurs-là tôt dans le match. Après, tu gagnes 3-0, bon, tu passes vite à 3-1, ça peut s'entendre. Mais effectivement, Julien Stéphane, on ne peut pas inventer des joueurs. Et sur le banc, il y a très très peu de joueurs qui sont en confiance, qui sont en forme. J'ai même envie de dire qu'il manque un peu de talent pour certains. Donc, c'est vraiment compliqué. Quand tu vois Salah rentrer à 3-2, de mémoire, on vient de prendre le 3-2. Tu as Salah qui rentre, tu te dis, mais qu'est-ce qu'il fait là?
Le changement il était demandé avant le 3-2. Hein.
Oui. Ouais, sûrement, mais je crois qu'il rentre au moment du 3-2.
Oui, exactement.
Donc tu peux l'annuler. Ça, ouais. Tu prends le 3-2 à la 75e, tu t'es en droit de l'annuler, tu te dis bah non, je vais éviter de le faire rentrer, tu vois. Donc il y a pas mal de débats également sur l'entrée de Matuidiwa. Vous en avez pensé quoi de sa première? Mathis, je te laisse commencer.
Bah, moi, du stade, de ce que j'en ai vu, j'avais le sentiment que ça. Bah, déjà, on est repassé en 4-3-3 quand il est rentré. On n'a pas forcément eu plus de réussite dans les ressorties. Enfin, on n'a pas sorti la tête de l'eau. C'est non. Ça que je veux dire. Ça n'a pas changé la physionomie du match. Ça a été fort à l'amo, bien que, comme je le répète, Lyon n'a quasiment pas été dangereux. Moi j'avais noté vu du stade, comme je dis, alors la vue est biaisée parce que le parquage est très mal placé à Lyon, mais de quelques belles ressorties de balles. Techniquement, c'est sûr que c'est un joueur qui va apporter. Et après, oui, j'ai pas grand chose d'autre à dire sur son entrée. Après, visiblement, j'ai cru voir dans les commentaires un placement pas très bon. Là, je vais plus demander à ceux qui ont vu la télé. Et je vous avoue que là, mon avis va pas être hyper intéressant et j'ai pas revu le match donc. Moi, son entrée m'a pas chagriné plus que ça. Voilà. Après, visiblement, Léo a sans doute plus de choses à dire et peut-être Kylian aussi sur son entrée. Donc, ouais, je ne peux pas m'exprimer plus sur ce sujet.
Ouais. Kylian, je t'en prie.
Moi, je l'ai. Bah, déjà, je trouve qu'il n'a pas forcément eu le temps ni le nombre de ballons assez conséquents pour en tirer des grandes conclusions. Mais
bien sûr.
Je l'ai trouvé un peu à l'image du match en demi-teinte. Il y a eu des belles projections avec des passes où il casse pas mal de lignes. C'est intéressant. Mais par contre, des fois, il y a eu des passes ratées, des jambes en l'air pour tenter des choses. J'ai deux, trois actions en tête. C'est trop tôt pour en tirer des conclusions. Mais j'en tirerai ni de négatif ni de positif, en fait. Pour l'instant, pour moi, c'est pas le moment.
Dans tous les cas, évidemment, on va laisser tout le temps à Hazor Matuidiwa. Et personnellement, je suis très certain que son recrutement est une bonne chose. Léo, toi, tu semblais un peu faire non de la tête tout à l'heure quand on avait un commentaire qui me disait qu'il avait fait une bonne rentrée.
Ouais, je suis, pour le coup, je rejoins parfaitement Potix. Alors, de là à dire qu'il était complètement déboussolé sur le terrain, je sais pas si c'est le terme que j'utiliserais, mais ça paraît normal aussi hein, que quand t'arrives comme ça. En cours de saison, t'as pas les automatismes avec tes coéquipiers. Tu rebascules en 4-3-3 qui, en plus, n'était pas le système de base qui était exploité par Stéphane avec, en l'occurrence, Lefebvre et Santamaria qui étaient devant lui quand on est repassé en 4-3-3. Donc, c'est logique que tu puisses avoir justement des difficultés, même si tu es habitué, toi, en tant que nouveau joueur, à ce système-là. Mais il faut aussi s'adapter aux joueurs qui sont autour de toi. Sur l'entrée de base, j'ai pas été extrêmement séduit parce que, comme l'a dit Mathis, il n'y a pas eu d'apport significatif, ne serait-ce que de par le rééquilibrage numéraire, où il est rentré au milieu de terrain pour qu'on puisse se retrouver, en fait, combler l'infériorité numérique qu'on avait par rapport au milieu de Lyon, qui était, si je ne dis pas de bêtises, repassé aussi à un milieu à 3 avec les trois attaquants devant. Attends, que je remette le schéma en tête. Je ne sais plus. Ils étaient à 4 ou à 3? Parce que je ne sais même plus s'il y avait les deux pistons.
Au début du match, ils jouaient à 5.
Et oui, après, au début du match, oui.
Je pense qu'ils étaient en 4-3-3 aussi.
Je suis quasiment sûr qu'en deuxième mi-temps, ils étaient en 4-3-3. Et en fait, justement, Matuziwa est rentré pour combler ce secteur-là pour nous faire sortir un petit peu la tête de l'eau, permettre de ressortir les ballons avec un joueur de plus et donc être moins en difficulté. Et en plus de ça, bien mieux attirer la pression et la gérer beaucoup plus facilement. Et ce n'est pas ce qui s'est passé. Effectivement, on a eu un Matuziwa qui, sur les vagues un petit peu lyonnaises, avait un peu de mal à se cadrer. Donc c'est ce que j'ai vu aussi depuis ma télé. Derrière, après, oui, techniquement, c'est vrai qu'il y a eu des choses intéressantes. Il y a eu une ou deux ressorties de balles. On a vu une petite passe à l'aveugle hein, que tout le monde a retenu, qui était chouette. Mais dans l'apport défensif de sa rentrée, à mon sens, c'était en demi-teinte, c'était assez léger. Mais ça reste parfaitement normal. Le mec vient d'arriver, c'est un bon joueur, on n'a rien à redire là-dessus, et il faut juste le temps qu'il s'acclimate. Mais au moins, ça, à mes yeux, c'est peut-être un premier indicateur du fait que on est peut-être bien avec ce système à deux de manière permanente. Alors, est-ce que Matuziwa va rester et être, on va dire, placé sur le terrain en tant que vrai relayeur, sentinelle avec deux relayeurs devant lui, ou est-ce qu'on est plutôt amené à le voir justement suppléer soit un Santamaria, soit un Lefebvre dans un double pivot? C'est à voir. Mais vu l'entrée qui a été faite et l'animation du système en 4-3-3 en deuxième mi-temps face à Lyon, sachant qu'en plus on parle de Lyon les mecs, hein, bah, je suis curieux de savoir ce que Stéphane va prendre comme décision, si c'est amené à réarriver à nouveau, et si on a une animation qui est aussi compliquée que celle qu'il y a eu à Lyon en deuxième mi-temps. Peut-être qu'on va rester sur un éventuellement Matuziwa qui remplace un Santa Maria, mais en restant double pivot avec le fait. Je sais pas. C'est une question que je me pose. Je m'interroge beaucoup.
Ok.
Voilà.
Dans les commentaires, pas mal de réactions justement à ton avis, Léo. Aroxos qui nous dit très difficile de le juger mi-temps catastrophique balle au pied côté Rennes.
Bien sûr, mais oui, complètement. Mais c'est vrai, c'est vrai.
Ouais, Antoine, il rentre pas dans c'est un contexte compliqué. Il rentre dans un match où ton équipe, où son équipe est assiégée. C'est pas le meilleur moment pour montrer forcément tout ce qu'il peut faire. Alors évidemment, comme on l'a dit sur l'aspect défensif, il a peut-être été un petit peu décevant, mais voilà, le contexte fait aussi que c'est pas l'idéal, je trouve, de rentrer dans ce genre de configuration de match.
Potix qui nous dit Matuziwa était complètement déboussolé, il ne savait pas où se positionner, soit en point de base, soit en relayeur. Très bonne analyse, Léo. Je ne vois pas par contre où il va jouer. Santa Maria est très bon en ce moment.
Il fera de la rotation nécessairement, au moins pour le début et l'acclimatation avec les 8 matchs qui vont arriver là sur les 3-4 prochaines semaines. Et d'ailleurs, c'est évident, aussi aussi pour ça, je pense, que Stéphane a fait des changements assez tôt dans le match, même si on a une semaine pour préparer Montpellier. Je pense qu'il prépare déjà progressivement cette rotation en ayant sorti Terrier aussi tôt dans le match. Il sera l'heure de jeu, je crois.
67, ouais.
Voilà, ouais, donc un tout petit peu plus tardivement. C'est assez évident, qu'il fallait préparer les 8 prochains matchs qui allaient arriver.
Surtout qu'il y avait 3-1 au moment de la sortie de Terrier. Oui, on est complètement d'accord. Sachant qu'on n'a pas de milieu derrière. Hein. Si l'un des 3 milieux, donc Santa Maria le fait, Matuziwa est blessé ou suspendu, on a l'option de recentrer Bourigeaud. Au-delà de ça, il n'y a pas d'autre option derrière. On n'a personne. Donc, oui, je suis d'accord que tout le monde va jouer. Reste à voir le système si ça sera à 3 ou à 2 milieux. Mais Reader étant blessé pendant encore quasiment un mois, effectivement, ça réduit le champ des possibles. Dis donc, ça vous fait vraiment réagir. Le cas Matuziwa. La Poulga, salut. Personnellement, Matuziwa m'a plutôt plu. Il a été l'une de nos clés pour tenir jusqu'à la fin du match. J'en ai marre de Danzé qui dit les matchs vont s'enchaîner, les trois milieux disponibles vont tourner. Cholo qui nous dit très compliqué pour Matuziwa d'aller trouver des joueurs devant quand l'attaque était Yildirim Salah. Par contre, dans les remises en petit espace, j'ai trouvé pas mal. Bah écoutez, moi j'ai vraiment hâte dans la même lignée. Je le disais la semaine dernière, mais Matuziwa est un joueur qui fait beaucoup avancer le jeu grâce à ses passes. J'ai vraiment hâte de le voir dans un système avec deux attaquants comme peut l'être le Terrier Kalimuendo. Ça n'a pas été l'occasion hier, ils ont joué 10 minutes ensemble, mais ça aurait été intéressant. Vite des recrues quand même, car quand tu regardes le banc, c'est compliqué, nous dit Valzer. Doué à la récupération, c'est assez impressionnant. Je pense qu'il peut rester sur le terrain bien plus longtemps, nous dit Neferu. Comme disait Léo, je pense que c'est surtout pour faire tourner en vue du gros mois de février qui arrive. Écoutez, je vais. Alors, il y a Mathieu qui voulait passer sur au standard pour évoquer le cas Mandanda. Mathieu, si tu nous écoutes, essaye d'ouvrir le lien via un navigateur externe, pas Safari, mais peut-être Chrome ou autre, et puis réessaye. Alors, on va voir si ça fonctionne. En attendant, selon vous, qui a été élu homme du match, selon vous, d'après les notes du Roi Zondor?
Ah, il y a pas trop de débat, je pense.
Ouais.
Bah, Terrier. Hein.
Effectivement, c'est Martin Terrier, 7,9, donc une très bonne note pour lui, auteur d'un doublé. Le deuxième est de très loin, c'est qui?
Enzo Lefebvre.
Non.
C'est vrai?
C'est totalement Désiré Doué. 7,4, le troisième étant effectivement Enzo Lefebvre à 6,7.
Donc c'est gentil pour Doué, je vous jure, je trouve ça quand même gentil pour Doué. Hein.
Après, son but est très joli.
Non, mais
il
okay,
a la récupération plus passe D sur le but de Terrier. Un but, une passe D, c'est quand même pas trop mal.
Oui, c'est vrai, effectivement. J'occupe peut-être un peu trop les stats pour Désiré Doué, je suis peut-être un peu trop focus sur le déchet qu'on peut voir.
Il fait ce qu'on lui demande, en tout cas sur ce match. Niveau flop, qui sont, selon vous, les deux joueurs qui n'ont pas plus de 5?
Ah, je pense que Bélossian, il a pas plus de 5.
Ok.
Kalimuendo?
Oh, ce serait dur.
Kalimuendo, il a 5.
Ouais.
Bah, Guéladoué, nécessairement, Guéladoué, je pense qu'il ne les a pas.
Guéladoué, il a totalement 5,3.
Hein?
Brujo, c'est sûr.
Ah ouais.
Non, mais les gars, celui dont
Mandanda?
on a parlé, ouais, voilà, Mandanda.
Mandanda, ouais,
Mandanda, pire note, donc 4,7. Je le rappelle, les notes du Roi d'Or, c'est les notes sur lesquelles on vous propose tous et toutes de noter les joueurs après les matchs. Donc c'est sur un panel assez représentatif, environ 250 à 300 notes à chaque fois. Donc 4,7. West France le note 4 et l'équipe le note 3. C'est quand même
Non, c'est très
très
logique.
sévère.
Franchement, ouais, non, je trouve ça très logique, moi.
Logique le 3.
Ouais, oui. Ah oui, franchement, oui. Bah oui,
Wow.
il prend. Bah oui.
C'est sévère quand même.
Enfin,
Il va décider.
on parle bien de Mandanda, on est d'accord. Il n'est pas décisif. Il prend deux buts sur lesquels il n'est pas exempt de tout reproche, hein, même s'il n'est pas entièrement responsable sur les deux. Quand tu rajoutes à ça, effectivement, moi, ce qui n'est que mon avis, mais son impact sur le jeu au pied, où ça a été un poids. Pour la construction du jeu, la pression qui était mise par les Lyonnais, etc. Non, franchement, moi, je suis pas du tout surpris qu'ils prennent un 3 dans les dents sur ce match-là. Hein.
Ouais.
Il est décisif, en aucun cas il est décisif hein, dans ce match.
Non, on est d'accord,
Quelques
mais
sorties intéressantes, mais.
comme on disait, pas fautif, mais il nous sauve pas non plus, quoi. Ok, question dans les commentaires, très intéressante aussi. La Poulga qui nous dit, une question me trotte dans la tête vu les performances d'Alemdar avec 3. Qu'allons-nous faire avec les gardiens l'année prochaine d'après vous? Je le rappelle, Dogan Alemdar, auteur
Oui,
d'un
bien
très gros
entendu.
match ce week-end contre
Ouais.
Caen.
Il a écrit.
Il a écœuré totalement le CM d'ailleurs de Caen. On a vu, vous avez peut-être vu
Moi
d'ailleurs
aussi,
sur
j'étais un peu triste qu'il sorte ce match-là, malheureusement. Mais bon.
Pourquoi?
Voilà. Ah, parce
T'avais
que je suis
parié.
un petit sympathisant du Stade Malherbe aussi.
Ah ok,
C'est
je ne
pour ça.
savais pas. Je ne
C'est le
savais pas.
moment qu'il sort pour le match.
En tout cas, Alemdar, enfin vraiment qui conquit énormément hein, le peuple troyen. On a un Gauthier Gallon qui est extrêmement apprécié des supporters rennais. Et d'ailleurs, je lisais un tweet dans la semaine qui m'a fait un petit peu réfléchir. Mais j'ai pas vraiment de marqueur sur un joueur qui joue si peu finalement et autant apprécié par les Rennais. Il y avait l'exemple de Romain Salin qui
Salin
était noté.
était apprécié.
Salin était apprécié, mais j'ai l'impression que Gauthier Gallon bénéficie d'un capital sympathie vraiment, vraiment génial et à juste titre. Hein, c'est un
Et ça,
gardien qui est
mais
talentueux et voilà.
mais ça c'est le périple Mohamed Toubacheter sur Twitter le jour de son arrivée où on a eu le droit à sur quelle station de repos il s'est arrêté sur l'autoroute, quel sandwich triangle il a pris.
Non,
C'est sûr que
puis
ça a joué ça. Non, et puis c'est un mec qui dégage quelque chose.
ça y est.
Enfin, il dégage un truc très sympathique. Enfin, et
Oui.
puis tu sens que c'est un bosseur, que c'est un gagneur, que c'est un battant. Enfin, il colle à ce qu'effectivement tout supporter de tout club pourrait apprécier. Donc, qu'il ait un capital sympathie, c'est pas du tout surprenant.
Ouais,
Merci de
Kylian?
ça a aidé, quoi.
Kylian, selon toi, est-ce que la hiérarchie peut être un petit peu embêtée? On sait que notamment Mandanda a prolongé son contrat, donc techniquement il sera encore là la saison prochaine. Nous aurons donc le retour de Dogan Alemdar, puis Gauthier Gallon qui est toujours là. Est-ce que selon toi la hiérarchie peut être un peu chamboulée?
Pour cette saison, je pense pas. Je pense pas que ce sera dans les plans de Julien Stéphan de changer de gardien comme ça. Surtout quand, enfin, faut pas oublier que Mandanda, ça reste notre capitaine depuis peu, mais ça le restera jusqu'à la fin de la saison pour moi. Donc,
C'est Bourige, notre capitaine.
Non, c'est Mandanda.
oui.
Attends, il a changé avec Stéphane?
Bah oui.
Waouh, j'ai même pas réalisé. Ok, bon bah my bad. Mais oui, mais je suis bête. Oui, j'avais. Ça y est, ça me revient. Mais ouais, my bad. N'importe quoi. N'en tenez pas compte. Je dis
Tu m'as
n'importe
fait
quoi.
douter.
Non, 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 mais non, mais totalement. C'est vrai qu'il y a eu des discussions en plus pour la perte du brassard. Non, t'as totalement raison. Je te laisse continuer.
Non, mais je voulais juste dire que bah, je pense que pour cette saison, j'aime pas cette expression, mais je pense qu'il a un totem d'immunité. Après, j'ai encore confiance en lui, mais c'est plus pour la saison prochaine. En effet,
C'était ça ma question, ouais.
on a un Gauthier Gallon qui va avoir du temps de jeu en Coupe de France. Je pense que ça va perdurer. On a un Dogan Alemdar qui va revenir de prêt. Donc déjà, on va avoir une concurrence Gallon-Alemdar pour potentiellement déjà une deuxième place, ça c'est sûr.
Ah, je
Il
comprends.
va y avoir des choix à faire. Est-ce que Mandanda serait justement un super gardien remplaçant, notamment pour l'apprentissage et la formation de ces messieurs à voir. Après, tout va dépendre justement de cette seconde partie de mandanda. Mais juste pour ajouter à ce que disait Mathis, pour Gallon, j'aime beaucoup le joueur parce que j'ai l'impression aussi qu'il se donne un second rôle aussi d'adjoint derrière Stéphane. Je pense que sa parole compte beaucoup dans le vestiaire et dans les choix de la direction, enfin de la direction du coach. Donc c'est intéressant de voir un gars comme ça chez nous.
Ouais. Léo, en tant qu'ancien gardien, on peut le dire,
Et quelle carrière, quelle carrière!
tu t'es un petit peu retiré des terrains, faut le dire, comme moi d'ailleurs, grande perte pour le milieu du district finalement. Est-ce que pour toi, question intéressante de la Pulga, est-ce que pour toi, la hiérarchie, je reformule un peu la question, parce qu'il nous parlait d'Alemdar, mais globalement sur ces gardiens-là, est-ce que pour toi il peut y avoir une petite remise en question ou non, Mandanda sera titulaire?
Non, non, je pense pas. Je pense que Mandanda sera titulaire
Et quoi
au
faire
regard en
d'Alemdar du coup
plus
avec son retour?
pour moi, Alemdar, il sera vendu, il ne sera pas conservé.
Ok.
Pour moi, il y a très très peu de chances qu'Alemdar ait un avenir au Stade Rennais, que ce soit en tant que doublure ou même en l'occurrence là, dans ce qu'on pourrait espérer de mieux pour lui, c'est à savoir un poste de numéro 1. Non, non, les signes en plus envoyés par le club au travers de la prolongation de Steve Mandanda pour un an supplémentaire, le fait que Gauthier Gallon soit bien implanté en tant que numéro 2, et il y aura pas, à mon sens, quelconque prise de poste de numéro 1 pour Gauthier Gallon à la place de Mandanda, hein. C'est Gallon, il est là pour être numéro 2 et pour dépanner Mandanda en cas de besoin en championnat et effectivement sinon pour jouer la coupe. Mais ce sera pas comment dire un concurrent direct au poste de numéro 1. Et puis derrière, bah, tu as Geoffrey Lambert qui joue le rôle de Romain Salin quoi, quand Romain Salin était là, qui est là pour compléter l'effectif.
Ouais,
Donc
alors Lambert en fin de contrat, hein, du coup, cette saison.
Eh ben, si c'est pas Lambay, ce sera un numéro 3 qui sera recruté dans le même style que lui.
J'ai
Et
une
dans ce cas-là,
question.
tu garderas pas Alemdar en numéro 2 et Gauthier Gallon en numéro 3,
Et
pour
moi,
moi.
j'ai une question. Bon, pour info, donc on a Mathis Silistri, hein, qui est derrière avec, avec la réserve. Moi, j'ai une question de la plus haute importance. Est-ce qu'on n'aurait pas le retour du fameux Gom-Gom?
Non, mais non, Gom-Gom, il est en fin de contrat en 2025. Non, mais ça me fait marrer. J'en ai discuté sur Twitter
Je
avec KO2
rigole.
Supporter. Mais Gom-Gom, il est en fin de contrat en 2025. Il sera reprêté cet été ou vendu s'il y a une opportunité. Et ça va s'arrêter là. C'est tout.
Parce qu'on est quand même sur un épanouissement total hein, du côté du Morbihan pour Alfred
Ah bah,
Gomis,
il se régale. Hein.
auteur de zéro match hein, quand
Ah,
même
mais
sur
il se régale.
ce. Ah non, de un match, pardon.
Il a joué en coupe.
Ouais, c'est ça. Il a joué en coupe, ils ont été éliminés directement. Mais c'est quand même un épanouissement total hein, pour l'ancien gardien du Stade Rennais.
Mais il est heureux et tant mieux pour lui, grand bien lui en face d'ailleurs. Mais non,
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 non, c'est
on
un
va
pays
écrémer, on
relooké.
va écrémer parce qu'on commence à avoir beaucoup de gardiens sous contrat quand même. Hein, entre les trois qu'on a, Alemdar qui est en prêt à 3 et Gomis qui est en prêt à Lorient, on est à 5. Ça commence à faire. Donc non, je pense qu'on va se séparer je pense qu'on va se séparer au moins d'Alemdar et Gomis. Alors Gomis peut-être pas dès cet été, hein, on ne sait pas s'il n'y a pas un club qui viendra le chercher ou non. Mais pour moi, Alemdar n'aura pas d'avenir pro club. Et puis bah, voir situation de Lambay. Soit Lambay est prolongé d'un an ou deux en tant que numéro 3, soit tu vas chercher un numéro 3 comme le profil de Lambay ou Salin, enfin dans ces eaux-là, quoi.
Ouais.
Je comprends pas vraiment qu'est-ce que la direction attend d'Alemdar. Enfin, on a quand même mis, je sais plus, 2-3 millions sur lui quand il est arrivé de Turquie. Mais on l'a envoyé comme ça en prêt en Ligue 2. Enfin, il fait une superbe saison. Pour moi, c'est un des top gardiens de Ligue 2. Qu'est-ce qu'il peut faire de plus en fait pour faire quelque chose chez nous?
Bah, en
Je
fait,
sais
le
pas.
truc, c'est que Alemdar, il a été envoyé en Ligue 2 parce que avant qu'il se passe tout ce qui s'est passé donc autour de Genesio, Maurice et tout ça, Alemdar était vraiment vu comme étant le successeur de Steve Mandanda pour le poste de numéro 1 au moment où Steve Mandanda allait quitter le club. Et c'était, de ce que j'en sais, prévu à la base que Mandanda vraiment ne fasse que 2 ans avec le club, ne prolonge pas, et que Alemdar, à l'issue de son prêt, revenait en tant que numéro 1 s'il faisait effectivement un intérim très satisfaisant avec 3 et qu'il pouvait laisser entendre qu'il serait en capacité de prendre le poste. Mais ça n'a plus l'air du tout d'être dans les plans de Stéphane en l'occurrence à l'heure actuelle. Et je pense qu'Alemdar n'est plus vraiment considéré comme une alternative viable avec un vrai niveau Ligue 1, en l'occurrence qui pourrait s'épanouir en Ligue 1. Donc en l'occurrence à l'instant T. Donc à voir. à voir après ce qui va se passer. Mais non, pour moi, Alemdar, c'est une aventure qui va se terminer, cet été avec le Stade Rennais. Et je ne serais pas effectivement surpris, comme le dit d'ailleurs la Poulga dans les commentaires, de le revoir partir en Turquie. Parce que je crois qu'en plus, il est courtisé. Il y a eu beaucoup de rumeurs à son sujet, courtisé par des clubs turcs. Enfin, voilà.
Je sais pas.
Il s'agissait peut-être simplement d'une opération trading, encore une fois, comme on en parlait.
Alors, au tout début,
personnellement, ma
peut-être...
théorie, c'est vraiment qu'on croyait en ce gardien et que je pense qu'il a un petit peu déçu.
Moi.
Parce que je pense qu'on en attendait plus. Et finalement, il a un petit peu déçu et on ne sait pas trop quoi en faire parce qu'aujourd'hui, la question, c'est est-ce qu'il a vraiment le niveau Ligue 1? Il fait l'affaire en Ligue 2. Il est très bon en Ligue 2. Reste à voir ce que ça peut donner. Pour nous répondre, on a un expert qui vient d'arriver avec nous. Mathieu, entraîneur des gardiens, pas tout à fait niveau Ligue 1, juste un tout petit peu en dessous, est avec nous pour échanger. Comment tu vas, Mathieu?
Ça va, et vous?
Eh ben, en pleine forme. Dites-nous si vous entendez bien, Mathieu, si le son est bon. Alors, Mathieu, toi, déjà, tu souhaitais réagir à la base sur Mandanda et son implication sur les deux buts, mais je pense que le débat qu'on a actuellement sur la hiérarchie l'année prochaine t'intéresse aussi.
Oui, et juste avant, je vais juste faire une petite dédicace à quelqu'un que vous connaissez.
Fab.
Voilà, c'est ça. Je ne pouvais pas commencer ça sans penser à lui, ça aurait porté malheur.
Voilà. Il n'est pas avec nous ce soir, mais on lui fait une dédicace. Je t'en prie, continue.
Ouais, concernant Mandanda, sur le match, j'ai eu la chance de le voir. Moi, le premier but m'embête plus que le deuxième, presque. Sur le deuxième, j'ai l'impression qu'il est en réaction par rapport à une erreur et en mouvement quasi quand la frappe débarque. Et ceux qui ont l'habitude de venir s'entraîner avec moi savent qu'il ne faut pas être en réaction, ou qu'il ne faut pas marcher, ou qu'il ne faut pas bouger, qu'il faut être sur ses appuis quand on va recevoir la frappe. Et quand Romain parlait de genoux qui était un peu mal positionné, je pense que c'est ça. Il a dû réagir et malheureusement, ça a fait petit coup. Il n'empêche qu'il doit mieux faire. Mais le premier, je ne le vois pas mettre des mains, quoi. Je le vois plonger un petit peu, mettre le corps, pas trop les mains, ou en arrière. Ça m'a gêné, moi, ça m'a frappé en direct. Et là, je me suis dit qu'il y a 5 ans, il y a 7 ans, il y a 10 ans, il l'aurait fait, cet arrêt. Je ne sais plus, le vous a dit qu'il y a 10 ans, il aurait fait les deux arrêts, je suis assez d'accord.
Ouais, ah, mais c'était 10 ans, c'est vraiment... C'est même pas ça. En fait, c'est difficile de rentrer ça dans l'argumentaire, quoi.
Et sachant que tu prolonges un mec qui va avoir 40 ans, la question peut-être se pose.
Ah, mais ça, c'est encore un autre problème. Moi, tu vois, à titre personnel, si on doit rentrer sur le débat, je suis pour sa prolongation.
Peut-être qu'à 40 ans, tu es moins vif qu'à 30. Tu fais moins de choses qu'à 30. T'es
sans
moins
deck. Vif, c'est vrai ? C'est vrai, Mathieu ?
On va en reparler bientôt, toi et moi, du coup. Je connais ton dynamisme aussi. Mais du coup, la question se pose vraiment. Moi, le premier but m'embête plus que le deuxième, pour le coup.
Ok. Sur la question qui nous était posée par la Poulga, est-ce que selon toi, Mathieu, la hiérarchie peut être un peu remise en question la saison prochaine? On l'a dit, Dogan Alemdar fait un très bon prêt du côté de Troyes. On a un Gauthier Gallon qui est auteur de bonnes performances lorsqu'il joue. Alors, on ne l'a pas vu sur un match où il était assiégé de tir, mais il est très apprécié des supporters rennais. Il a une personnalité qui est vraiment intéressante. On a du coup Mandanda qui prolonge. Est-ce que selon toi, il peut y avoir un petit micmac dans la tête de Julien Stéphan?
Je ne sais pas qui aura comme gardien l'année prochaine, déjà.
Ça fait partie de la question.
Donc, est-ce qu'on met un mec de 40 ans titulaire en Ligue 1 quand tu veux jouer le haut de tableau? Je ne sais pas. Gallon, moi, je ne le vois pas en Ligue 1, je ne sais pas. Enfin, en tout cas, pas titulaire dans un club de haut de tableau. Je ne sais plus qui l'a dit, mais je suis assez d'accord. Alemdar, vous me connaissez un peu. Enfin, pour ceux qui me connaissent un peu, vous savez que je le regardais avec attention. Je trouve qu'il a quelques qualités. Il les montre en Ligue 2, c'est bien. Est-ce que ce sera suffisant pour jouer le haut de tableau de Ligue 1? Pas sûr. Et après, vous me direz, on est allé quand même chercher un gardien en Ligue 2 à Sedan qui a pourtant fait une belle carrière chez nous et qui a amené le club en Europe. Donc, pourquoi pas. Je serais moins tranché que Léo sur le cas Alemdar et sur sa présence à Rennes l'année prochaine. Si jamais il fait une bonne fin de saison, pourquoi pas le garder? Ou le prêter à un club de Ligue 1.
Tu le prêtes dans un club qui monte en Ligue 1, style un danger, quelque chose comme ça, la saison prochaine, c'est pas déconnant. Hein.
Ou dans un club de Ligue 1 qui
existe déjà.
Ouais. Bon, bah, en tout cas, voilà, on va fermer cette page gardien. Mais en tout cas, Mathieu, merci beaucoup d'être intervenu pour cette partie. Est-ce que tu as un petit mot pour la fin? C'est le classique.
Non, toujours la même pensée pour Fabien et une petite pensée pour Arthur aussi.
Oui, tout à fait. Merci beaucoup, Mathieu, d'être passé. À bientôt.
Bonne soirée.
Ciao. Je précise Mathieu qui était notre entraîneur des gardiens avec Léo, donc voilà Mathieu la légende du BFK. j'ai vu sa tête en partant.
Ouais, toi aussi.
Bon, écoutez, on va pouvoir terminer plutôt. Avec une petite partie mercato, parce qu'il y a plusieurs questions qui se sont posées dans les commentaires. Alors déjà, une petite aparté pour un ancien Rennais. Je milite depuis très longtemps pour ce joueur qui était le joueur le plus valuable de Turquie. Sacha Boué vient de signer au Bayern Munich et je ne serais pas étonné de le voir pas loin de l'Euro. Pas loin de l'Allemagne du côté de juillet-août. Sacha Boué, pour moi, futur latéral de l'équipe de France, formé à Rennes. Et donc, hâte de voir ce que ça va donner du côté de l'Allemagne, voir son acclimatation, etc. Mais très, très hypé par ce transfert, en tout cas. Donc, encore un ancien Rennais qui réussit. À ce poste-là, il y a un dilemme un petit peu en ce moment, puisque Alidou Seydou va revenir de Coupe d'Afrique des Nations. Il me semble que le Ghana est éliminé, si je ne dis pas de bêtises. J'ai un gros doute.
Ouais, ils sont éliminés.
Oui, ils sont éliminés. Donc Alidou Seydou ne devrait pas tarder à arriver en Bretagne. L'accord entre les deux clubs est bon. Il reste le contrat avec quelques détails, notamment la fameuse visite médicale. Bref, Alidou Seydou, selon Julien Stéphan, serait probablement recruté pour jouer à droite, sachant qu'on rechercherait encore un défenseur central et que ça continue vraiment. Le mercato terminera le 1er février, c'est-à-dire jeudi soir. Donc il reste encore plusieurs jours pour ce mercato, ça devrait évidemment s'agiter très prochainement. Question, Lorenz Assignon serait un petit peu sur le départ s'il ne tenait pas à être justement titulaire. Kylian, est-ce que c'est une annonce qui... Enfin, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que, bon, sur la crédibilité de cette rumeur à voir, mais Lorenz Assignon remplaçant, t'y crois? Alidou Seydou qui passe devant. Qu'est-ce que tu en penses de cette rumeur, Kylian?
Ouais, j'y crois et à vrai dire, je l'espère. Puisque avoir une concurrence en interne, justement, sur un poste comme ça, je pense que ça peut être que bénéfique, justement, avec toutes les compétitions qu'on va avoir, enfin, toutes les compétitions, avec la Coupe de France et l'Europa à jouer en plus de la Ligue 1, donc c'est que bénéfique. Assignon, c'est un joueur qui nous a montré des très très belles choses cette saison, malgré qu'il manque peut-être un petit peu de régularité à mon goût. Mais ça ne m'embêterait vraiment de le voir partir, surtout quand je vois des rumeurs style Galatasaray, parce que pour moi, je suis sûr qu'il va là-bas, il nous fait une Sacha Boué, comme on en parlait. Oui. Donc, non, franchement, j'espère qu'il va rester. Et Seydou, qui sait, il peut très bien évoluer dans l'axe aussi. Donc peut-être que si les deux font le travail, les deux peuvent avoir leur chance. Donc franchement, je suis pas du tout pour le départ d'Assignon. Bien au contraire.
Ok. Mathis, est-ce que la solution pour voir rester Lorenz Assignon, ce serait finalement de ne pas recruter un autre défenseur? Et donc de juste garder Alidou Seydou pour qu'il joue central?
Bah, moi, j'aurais un peu escalier, c'est du gâchis, mais... C'est pas moi qui ai diplôme d'entraîneur, mais je trouverais dommage d'utiliser Seydou en tant que latéral. Je le martèle depuis longtemps. Pour moi, il est meilleur défenseur central. Et en plus, son profil fait qu'il gommerait quasiment tous nos manques dans ce secteur de jeu. Je m'entends, la gestion de la profondeur. C'est un joueur qui est quasiment imprenable sur les longs ballons, qui est difficilement battable à la course. C'est un joueur très bon dans les airs. Un joueur très très bon au duel. Son seul point faible, je trouve, c'est qu'il peut vite dégoupiller, sortir de son match. Donc ça pourrait nous coûter. Mais pour moi, dans l'axe, alors je pense que le profil recherché est un profil athlétique, grand, costaud. Mais à part ça, pour moi, Seydou, il a toutes les qualités de nos défauts qu'on a actuellement en défense centrale. Et encore une fois, Seydou, pour suivre Clermont assez souvent, il est capable de jouer une défense à 4. Il l'a déjà fait la première saison quand ils sont montés en Ligue 1 et ça s'était bien passé. Gatien était repassé à 3 derrière parce qu'il avait des joueurs plutôt adaptés comme Alevina, mais bref, pour jouer piston, donc il avait changé un petit peu ce système. Voilà, là, pour moi, je trouverais ça dommage. Et qu'Assignon parte, pour enclencher le sujet à Assignon, je trouverais ça regrettable. C'est un joueur, je sais que Léo, c'était un peu pareil, il avait pensé un peu la même chose. Cet été, on le voyait vraiment comme le numéro 1, qu'il allait éclore définitivement cette saison. Il était en train de le faire, et je crois que le principal tournant, c'est le départ de Genesio, et visiblement, Stéphane n'apprécie pas forcément son profil.
Et sa blessure à Toulouse aussi.
Comment?
Et sa blessure à Toulouse aussi.
Oui, il y a aussi ça, oui, en effet, qui ne joue pas pour lui. Et pour moi, ce serait vraiment dommage. Un enfant du club qui a fait savoir qu'il adorait le club, qu'il était attaché, le laisser partir, ce serait regrettable. Maintenant, on n'est pas dans les coulisses. Je veux dire, j'ai vu hein, des commentaires passer disant qu'il n'aimait pas la concurrence, enfin que il était déçu qu'il n'accepte pas cette prétendue concurrence. Après, je ne sais pas si on lui promet une place de titulaire indiscutable et qu'au final, on lui met dans les pattes un joueur au cours de saison. Je peux comprendre aussi qu'il se sente frustré. Donc ça, c'est très difficile pour moi de juger son état d'âme par rapport à ça. On n'a pas tous les tenants et les aboutissants. Mais toujours est-il que je serai un des premiers à être triste et déçu de le voir partir parce que moi, je suis persuadé que c'est un joueur qui peut aller plus haut et qui s'éclatera, je pense, là où il partira s'il devait partir. Donc, dans le gros regret, aussi bien de voir Seydou penser comme étant latéral que de voir potentiellement Assignon partir du Stade Rennais.
Ouais, moi je suis d'accord, ça m'embêterait vraiment. Alors je sais qu'on cherche effectivement c'est pas un secret, un profil, comme tu disais Mathis, grand athlétique pour être central avec de l'expérience. Mais tu l'as bien dit aussi, Seydou peut, alors c'est pas ce profil, mais peut clairement pallier à beaucoup de nos maux en défense. J'ai aucun doute sur le fait qu'en tant que défenseur central aujourd'hui, il aurait l'unanimité des suffrages. Et
Oui.
ça serait l'occasion de voir Assignon rester, de voir Guéladoué rester. Alors, je ne sais pas trop si enfin, dans tous les cas, il ne faut pas plus de deux défenseurs droits plutôt. Ça sert à rien de tripler les postes, en tout cas ce poste-là. Donc, si Alidou Seydou est utilisé à droite, effectivement, Assignon Guéladoué, bah, il y en a un des deux qui va devoir bouger. Soit Guéladoué en prêt, soit Assignon en transfert. Mais c'est vrai que ça serait dommage parce que c'est un enfant du club. Il l'a dit également en conférence de presse. Je donnerai tout pour ce maillot, etc. Et je pense que c'est vraiment sincère. C'est un jeune. Bah, je crois que c'est qu'il a mon âge. C'est un 2000. Et il a encore une bonne marge de progression. Il est perfectible, mais c'est un joueur qui a montré de belles choses. Il a des bonnes qualités. C'est un joueur qui a du caractère aussi, et ça, on en a besoin. Donc, ce serait vraiment dommage pour moi de perdre ce joueur et ce mec. Et au-delà de ça, si pour moi on devait recruter, pour faire une petite parenthèse ailleurs que sur Assignon, ce serait vraiment sur un profil expérimenté pour le banc. Parce qu'aujourd'hui, j'estime qu'on a. Enfin, ça fait très longtemps que je le dis, mais on n'a pas assez de caractère dans notre équipe. Et quand on voit le banc, c'est vraiment désastreux. Ça fait très peur de voir les joueurs qu'on a sur le banc. Alors oui, il y a la CAN, il y a machin. Mais aujourd'hui, à la CAN, on n'avait que Christopher Wu. Allez, on va rajouter Alidou Seydou et Amine Gouiri qui est blessé. Fabien Rieder blessé. Mais que, voilà, c'est l'avis d'un groupe. Et aujourd'hui, quand tu vois le banc qu'on avait contre Lyon, ça fait très très peur. On n'a personne à faire rentrer, quoi. Donc moi, j'aimerais avoir un joueur de caractère qui puisse pousser des coups de gueule quand il y a besoin. Et aujourd'hui, pour moi, c'est ce joueur, on l'a pas. Voilà pour la petite parenthèse à côté. Léo, on le sait, Lorenzo Signon, c'est un petit peu ton protégé. Qu'est-ce que t'évoques, toi, cette rumeur?
De la tristesse, beaucoup de tristesse parce que, et Mathis a parlé pour moi, et il l'a très bien fait. Je le porte, enfin, j'ai beaucoup d'estime pour ce gosse. Alors, je dis ce gosse, c'est un. Enfin, on a 3 ans de différence, mais bon, voilà, c'est un petit enfant du club, tu vois. Alors, même s'il n'est pas né à Rennes, il est né à Poitiers et tout ça, Ça fait un bon bout de temps qu'il est du côté de l'Ille-et-Vilaine et moi j'y suis très attaché depuis qu'on a commencé à le voir avec les professionnels et oui cette rumeur de départ en fait m'attriste. Je suis comme Mathis, je ne juge pas en fait les états d'âme le concernant, notamment sur le côté concurrence, il aime pas ça, etc. Enfin, en l'occurrence là, on n'en sait pas grand chose en fait, on n'en sait rien, on ne sait pas ce qui s'est dit, on ne sait pas ce qui lui a été vendu comme projet. Alors il semblerait qu'on lui avait vendu un poste de titulaire
Ah, on a perdu Léo.
Ouais.
On a perdu Léo, ok. On va voir s'il est de retour. C'est con parce que ça commençait bien. je vais lire un petit peu vos commentaires en attendant. Maxime qui dit en conférence de presse, Stéphane n'était pas des plus rassurants quand on lui posait la question, comptes-tu sur Lorenz à signer en deuxième partie de saison ? Oui, mais c'est sûr dans tous les cas qu'il y a des rumeurs, qu'il y a des choses, qu'il y a des intérêts.
Est-ce qu'on m'entend ?
Oui, on t'entend, Léo. Pour être honnête, je suis pas sûr qu'il. Enfin, de toute façon, oui, Stéphane n'a pas plus d'infos à mon avis, et c'est surtout pas lui qui va décider. Donc oui, évidemment qu'il espère avoir son joueur, tout comme il disait espérer avoir Arnaud Calimundo, parce que ça aussi, ce sera l'un des feuilletons de cette fin de mercato. Léo, du coup, je te laisse. C'est oui, dommage, ça commençait bien.
Non mais bon bref voilà, ce que je disais c'est attristé par cette rumeur. Je ne vais pas juger les états d'âme parce qu'on ne sait pas trop ce qui se dit autour de son cas, ce qui lui a été vendu au départ de la saison par rapport à ce qu'il a l'air de constater depuis que Julien Stéphan est de retour au club. Cette déclaration que Maxime a citée dans le chat, moi aussi m'avait marqué. J'en ai discuté avec des amis où je pressentais effectivement qu'on était plus sur un Julien Stéphan qui n'était pas le plus le plus enjoué du monde à l'idée de le garder dans l'effectif. Encore une fois, ça ne reste que de l'interprétation. Donc maintenant, je serais effectivement attristé de le voir quitter le club, mais c'est un côté, je perds presque en lucidité en fait le concernant, parce que j'ai vraiment, je vois peut-être, et certains auraient raison de le dire, que je vois ce joueur-là trop beau, parce que il a encore beaucoup de choses à améliorer dans son jeu, et aussi certainement une régularité à trouver sur le plan physique. Hein, faut pas oublier qu'il a été blessé une grande partie de la saison dernière, il s'était fait des ligaments croisés de mémoire. Enfin, il a été absent un bon moment, les blessures côté Assignon, voilà. On sait que c'est assez répétitif, on le revoit encore cette saison-là, donc peut-être que le club ne le considère plus, en l'occurrence Julien Stéphan et son staff ne le considèrent pas comme une garantie viable pour l'effectif. Voilà, ça après j'en sais trop rien, je ne fais qu'émettre des hypothèses, mais du coup oui, peut-être que je perds en lucidité sur son cas parce qu'il y a beaucoup d'affect, voilà, c'est difficilement explicable. Il y a des joueurs pour lesquels on n'arrive pas à se faire à leur style de jeu, à leur personne, etc. Et Lorenz Assignon, pour moi, c'est tout l'inverse. Vraiment, j'adore ce joueur. Et juste rien que pour ça, ça me ferait chier de le voir partir, tout simplement.
Ouais. Puis le voir partir pour combien de millions, juste parce que...
Bah après, ça, on n'en sait rien. Enfin, oui, il est vendu comme
étant...
Il a
un bon contrat. Il a un contrat encore pendant 3 ans et demi. Donc, joueur performant sur un mercato d'hiver, tu peux compter pas loin de 20 millions, je pense.
Ouais, mais là, en l'occurrence, justement, ce qu'il va faire, s'il doit partir, s'il doit partir, en gros, sa valeur, elle serait nécessairement baissée par la période de blessure qu'il a connue ces dernières semaines. Donc... En vrai, je pense qu'un Lorenz Assignon, malheureusement, t'en tirera pas plus de 10. Non, à l'heure actuelle, non. Si tu le vends au mercato d'hiver, ouais. Non. T'auras personne qui viendra le chercher à plus de 10. Non, non.
Je comptais plus dans les 7-8, moi.
Moi, je suis sûr que non, que personne viendra le chercher. Moi, si tu me demandes à moi, je te dis, mais Assignon, avec le potentiel du gosse, on le vend 15. Hein.
On le vend
15 sans broncher. Mais je pense que la réalité.
12-13.
Mais je pense que la réalité, enfin, tant est qu'on puisse s'en approcher. Tu couples le contexte physique autour du joueur et le fait que t'es au mercato d'hiver, etc. Pour moi, t'as
mec. Justement, mercato d'hiver, ça se paye plus cher. Hein.
Mais d'accord, mais le truc, c'est qu'il a pas joué. Il a pas joué depuis un mois et demi, 2 mois, Signon, quoi.
Ouais. Je sais pas. Dans tous les cas, on a des rumeurs.
Pars pas, Lorenz, s'il te plaît, pars pas. Je t'en supplie. Enfin, joue la concu avec Alidou Seydou et voilà, pars pas, s'il te plaît.
Ben moi je vais faire mon prono, mais
vraiment Lorenz, je t'aime trop, ne pars pas, je t'en supplie.
Voilà. Je vais faire mon prono. Pour moi, on ne recrutera pas d'autres défenseurs en dehors d'Alidou Seydou. Du coup, Alidou Seydou jouera défenseur central droit. Lorenzo Sinon va continuer à son poste de latéral droit. Voilà, on verra bien. Juste un mot pour terminer, parce qu'il y a un formidable Paris-Brest qui nous attend. Un mot pour terminer sur Nemanja Matić, parce qu'on n'en a pas parlé, alors que c'est...
Bonne soirée, les mecs.
En vrai, c'est un énorme coup qui... Alors, on s'y attendait, mais en vrai, c'est quelque chose d'assez fou ce qui s'est passé avec le cas Matić. Pour commencer à en parler, pour moi, Matić, le transfert que représente Nemanja Matić autour du Stade Rennais, c'est un énorme fiasco. Parce que tu arrives sur un joueur ultra expérimenté qui a tout connu. Tu as évidemment des promesses. Alors, il a fait des bons matchs, hein. Clairement, il a sorti des bons matchs. Il y a eu aussi des phases plus compliquées. Mais que tu recrutes un joueur international de cette ampleur et que ça se finisse comme ça, c'est vraiment un fiasco en termes de transfert. Et c'est d'une tristesse affreuse. Je l'ai comparé. Ça va vous faire marrer. Mais en fait, je suis pas sûr qu'on se souvienne de Matić très très longtemps pour ces matchs. C'est un peu comme à un moment, on a ramené un ancien capitaine de l'équipe de France, vainqueur du championnat de France pendant 6 mois en prêt. Est-ce que vous l'avez?
Ah, Alou Diarra, MDR.
Qui se rappelle d'Alou Diarra au Stade Rennais? Ouais, eh ben, bon, écoute, ça me rappelle ça, mais fois, enfin, à échelle internationale. Et c'est vraiment un fiasco, en fait. C'est hyper décevant. Je pense que toutes les parties ont un petit peu de choses à se reprocher. Mais alors, est-ce que tu as une part d'ego? Est-ce que tu as une part d'entourage? Il y a beaucoup de choses qui, quand tu as un joueur de ce calibre-là, tu as beaucoup de choses. Oui, c'était que 6 mois à Loudira. Tu as beaucoup de choses qui entourent ce dossier-là. Mais qu'est-ce que c'est décevant, quoi, Kylian?
C'est super décevant. Je me revois encore il y a 2 bons mois vouloir acheter son maillot. Je l'ai protégé plus d'une fois en émission ici. Mais d'un côté, je repense à cet été où le moment où il nous a rejoint, je m'étais amusé à écouter la conférence de presse de Mourinho. Je ne sais pas si vous vous souvenez, concernant son départ de la Roma. Oui. Et ça reflète complètement sa mentalité. En fait, je pense que je m'étais un petit peu, j'avais un petit peu fermé les yeux sur sa mentalité. Mais
oui.
Je connais quelqu'un qui est très supporter de l'OL. Je lui ai dit et je le pense, il leur fera la même dans 6 mois. Enfin, c'est la mentalité du joueur qui n'enlève pas un super gars sportivement, mentalement, pour moi, c'est zéro, quoi. Donc aujourd'hui, content que la direction s'en soit séparée et qu'on montre aussi à tout le monde que le Stade Rennais est au-dessus de tout. Donc qu'il aille à Lyon bien se foirer et descendre en Ligue 2, je l'espère.
Waouh.
Ouais, désolé, des mots un peu forts.
Ce sont des mots forts. Mathis, est-ce que tu es d'accord avec moi déjà sur le fait que Nemanja Matić, c'est un gros flop au Stade Rennais? Et surtout, qu'est-ce que toi, ça t'évoque, ce départ? Qu'est-ce qu'on retiendra en fait de Nemanja Matić à Rennes?
Bah oui, forcément, ça restera un flop parce que c'était un peu la vitrine de ce mercato d'été. C'était un petit peu le symbole, les prémices d'un prétendu changement de cap. C'est-à-dire que Rennes avait réussi à attirer un joueur qui a fait 3 finales de Ligue Europa, international, enfin bref, qui a un CV long comme le bras. Et voilà, malheureusement, ça n'a pas matché et ça peut-être nous faire stagner dans cet esprit d'attirer des joueurs de son envergure. En fait, je ne suis pas aussi catégorique que Kylian. Enfin, je pense qu'en effet, ce qu'il a fait, ça ne se fait pas maintenant, c'est encore pareil. Enfin, j'essaie de prendre du recul, ça reste un père de famille, il a une famille à gérer. Après, son premier tort est évident, c'est qu'il n'a pas, il doit se renseigner dès son arrivée.
Complètement.
Ça, c'est aussi de la faute des agents. Hein.
Ah bah oui, non mais complètement, mais voilà. Je veux dire, justement, tu es père de famille et voilà, tu veux le meilleur de tes enfants, tu te renseignes un maximum, je pense. Je suis pas papa, mais c'est comme ça que j'aurais quand même agi. Et voilà, il aurait dû dès le début se rendre compte qu'il n'y a pas d'école internationale. Et dans ce cas-là, voilà, là on s'assoit autour d'une table, on dit bon ok, on fait comment, nanana. Et malheureusement, c'est passé au travers et c'est revenu C'est revenu sur la table, comme par hasard, j'ai envie de dire, dans une période où ça n'allait pas bien non plus. Je pense que la période du Stade Rennais, le départ peut-être aussi de Genesio, a fait que ça n'allait pas.
Les résultats sportifs qui lui convenaient pas, et ça n'a jamais
Ouais, il y a
été
ça.
dit. Et je suis sûr qu'on est en train de se faire berner par une histoire d'école internationale qui n'est pas l'élément majeur des volontés de départ de Matic.
C'est
J'en suis
possible, mais alors
persuadé.
dans ce cas-là, pourquoi rejoindre l'OL aussi? Parce que Lyon, à mon avis, il va jouer le maintien jusqu'au bout, hein. Tout
Non,
comme
mais ça,
Lyon
ouais.
est.
Mais parce qu'ils lui ont promis peut-être aussi un salaire un peu plus élevé que ce que nous on voulait, ce qu'on pouvait lui
Peut-être.
proposer à Rennes, hein, j'en sais
Peut-être,
rien.
bon, dans ce
C'est
cas-là,
un ensemble,
Lyon.
en fait, c'est un mix. En fait, c'est un mix, tu vois. Mais entre ce que moi, je suis persuadé qu'entre ce qui lui a été vendu cet été, et tu couples effectivement à ça, cette histoire d'école internationale, machin, il s'est servi de ça comme prétexte pour pouvoir se barrer ailleurs. Et Lyon est arrivé un petit peu comme un espèce de chevalier blanc à te dire, au fait, à Lyon, on a une école internationale pour tes gosses, et en plus de ça, on t'implique dans un projet où vraiment on va se battre jusqu'au bout, mais en plus de ça, on peut te proposer un joli petit pognon, un joli petit billet. Enfin, pour moi, en vrai, j'en sais rien. Encore une fois, je n'émets que des hypothèses, et là, je parle surtout avec la haine vis-à-vis de son comportement, parce que je considère que ce qu'il a fait, c'est petit, c'est bas, c'est ridicule, enfin, c'est indigne, quoi. C'est indigne d'un joueur de son standing. Et clairement, je pense que ce n'est qu'une façade. Cette histoire d'école internationale, ce n'est qu'une façade par rapport au déroulé de la première partie de saison qui, au final, était à l'encontre complète de ce qu'il s'imaginait, que ce soit entre projet Genesio ou les résultats qu'on lui a vendus au moment de son arrivée, le projet qu'on lui a vendu, et au final, ce qu'on lui a foutu sur le devant du. Enfin, ce qu'il a pu constater par lui-même au fur et à mesure que la demi-saison avançait, quoi. Et c'était, encore une fois, je maintiens ce propos-là en disant que ça fait moins lâche. En fait, je pense que ça paraît aussi moins lâche de se dire je me barre en mettant sur le devant de la scène une sorte d'école internationale parce qu'en gros je mets ça sur le dos
Sur
du
le dos du
club
club, tout à fait.
et en gros bah, je ne pars pas comme un voyou en mode bah non au final les résultats sportifs si le mec est arrivé sur le devant de la scène et avait dit les résultats sportifs ils sont à chier je vais me casser bah, il serait passé pour un immonde salopard jusqu'au bout quoi sauf que là en fait il le fait pas et pour moi ça c'est je suis persuadé que il a c'est ce n'est qu'une façade et il s'est barré en partie parce qu'il y a tout qui ne concordait pas entre Genesio les résultats sportifs etc
Oui, d'accord.
Je pense qu'on
j'ai
saura pas
c'est le
jusqu'au
joueur
bout.
qui n'est
Non, on
peut-être
le
pas
saura jamais.
on le saura jamais mais à mon sens cette histoire est un immense foutage de tronche mais
Oui, un joueur qui n'était peut-être pas à la hauteur du challenge. Mais après, d'un côté, tant mieux. D'un côté, tant mieux. Et si tu, enfin voilà, tu gardes un joueur qui n'est pas impliqué, qui à la moindre défaite fait la gueule, je sais pas. Mais en fait, c'est hyper décevant parce que en fait, on va pas se mentir. Là, aujourd'hui, tous les quatre, on a un peu grandi avec. Je dis pas que Matic était notre référence, mais on a tous grandi, tous les quatre, avec Matic qui était un extrêmement bon joueur. Et forcément, quand on voit des joueurs comme ça, on se dit, mais c'est des super mecs, ils ont gagné des trophées, ils ont fait des finales, ils ont machin. Et en fait, la réalité, c'est que y a autre chose et que quand tu arrives dans ces sphères-là, tu as d'autres choses que juste le joueur qui est bon, quoi. Et tu as totalement raison, pardon, Kylian, quand tu parles de cette conférence j'allais dire de Genesio, de Mourinho, et qui parle du départ du joueur, de ce caractère, etc. Et c'est des réalités aussi auxquelles doit être confronté le club. Peut-être que ça sera bénéfique sur du long terme au club, parce qu'on aura déjà un Hazard Matuidi qui va performer, et aussi parce que potentiellement sur le prochain gros joueur, on ira un petit peu plus tranquille, on fera attention à tout le cadre qu'il y a autour, on ira se renseigner un petit peu sur la personnalité et pas que le jeu. Et bref, voilà, on verra bien, mais c'est très décevant.
Bon débarras.
Ouais. Potix qui nous dit, c'était non seulement pas un joueur adapté à notre grille de salaire, mais aussi pas adapté à notre style de jeu. Encore une fois, Maurice s'est planté, cette excuse est minable, arrêtons de croire à ça. Il a été déçu par le départ de Genesio et par les mauvais résultats, point barre.
Bon, Maurice s'est planté, je crois pas que ce soit lui qui soit à l'origine de son arrivée, non? Enfin de.
Alors, l'origine de son arrivée, oui, mais l'origine du plantage, pour moi, non. Parce que
En fait, à la
c'était une bonne
base,
idée.
Maurice était
Ouais.
sur le coup avec Maurice était sur le coup et mais c'était effectivement il y avait une dualité dans le dossier si je dis pas de conneries entre Maurice et Cloarec et
Ouais.
Maurice a fait de la
Exact.
merde sur le dossier que Cloarec a
Exactement.
rattrapé.
Ok.
Exactement. Matic, pour moi, le flop n'est pas le joueur, mais le club a géré ce genre de joueur, nous dit Joévin. Ou Joévin. D'accord, n'en parlons plus, fiasco, nous dit Bruno. N'en parlons plus, nous dit Yann. Oui, on est d'accord, mais on souhaitait quand même en parler ce soir parce qu'on n'en a pas du tout parlé de ce cas-là.
Le chapitre, définitivement, c'est bon, c'est fait. Et,
voilà, c'est fait.
On enlève le marque-page.
Exactement. Hâte de voir en tout cas ce que va donner cette fin de mercato puisque, je l'ai dit, jusqu'à jeudi soir, les rumeurs iront bon train. Donc, à suivre, un potentiel départ d'Arnaud Kalimuendo, potentiellement une arrivée en attaque. Potentiellement un départ de Lorenzo Signon ou Guéladoué suite à l'arrivée d'Alidou Seydou qui s'officialisera probablement très rapidement. Potentiellement l'arrivée d'un défenseur central également. Bref, pas mal de dossiers encore. Merci à toutes et tous de nous avoir écoutés ce soir. On va terminer là-dessus. Il n'est pas exclu qu'on fasse une émission un petit peu plus longue la semaine prochaine avec cette fin de mercato. Mais en tout cas, on se retrouvera après le match Rennes-Montpellier. Tribune Mordelbas fermée. Pour l'instant, je n'assiste pas à ce match. Je suis un peu dégoûté. Mais je vais essayer de trouver une solution. En tout cas, encore une fois, le football festif qui est raillé, pointé du doigt. Alors, bref, la décision, on va pas la commenter. Mais c'est dommage parce que la fête... bref, le RCK a donné honneur à la fête en tribune et se voit sanctionné. Et toutes les personnes qui vont avec, c'est dommage, c'est comme ça, pas de match Rennes-Montpellier pour moi, mais on se rattrapera. Mathis, merci à toi d'avoir participé à cette émission. Est-ce que tu as un petit mot pour la fin? D'ailleurs, je le précise, mais le PSG qui vient d'ouvrir le score face à Brest.
Et quel but, hein.
Et le mot de la fin, que dire, que c'était bien sympa cette émission. Et moi, j'espère que le parquage contre Sochaux sera pas fermé. Je croise les doigts, ouais. Mais mis à part ça, non, je souhaite une bonne semaine. Et vu le calendrier qu'il y a jusqu'à, on va dire, ce déplacement au Parc des Princes, j'exclus la double confrontation face au Milan AC, on a de quoi être optimiste. Voilà, il y a Montpellier, il y a un déplacement au Havre qui, même si ce sera compliqué, qui reste jouable, il y a une réception de Clermont. Donc, j'ai envie de croire à des semaines vraiment belles pour le club. C'est un possible quart de finale de Coupe de France aussi. Donc, c'est bien, il y a une dynamique qui s'enclenche et j'espère vous retrouver dans le même état que ce soir avec des points dans la besace et un quart de finale de Coupe de France la semaine prochaine.
Exactement, un mois de janvier.
C'est pas 7 sur 9, hein, l'objectif, mais c'est en nobody 9 sur 9. On doit faire 9 sur 9. 9 sur 9, pardon.
Un mois de janvier, en tout cas, totalement parfait pour le Stade Rennais. Espérons que ça puisse continuer. Personnellement, je suis très excité à l'idée de ce mois de février. Un départ à Milan, puisque ça y est, j'ai enfin ma place en parquage. Ça a été compliqué, ça a été long, mais ça y est, je l'ai. Donc voilà. Pour information, d'ailleurs, dites-nous si dans les commentaires, certains cherchent des places. J'en ai pas en parquage, mais du coup, j'en ai deux en tribune, juste en dessous du parquage. À Milan, du coup, si ça peut vous aider, n'hésitez pas à commenter. Et pour info, pour rappel, vous avez le groupe Info et Déplacement Entrée des CRFC, qui est notre groupe, où tout le monde partage un petit peu ses bons plans. Donc très très hâte de ce voyage à San Siro, ça va être magnifique. Kylian, merci à toi d'avoir participé à cette émission. Est-ce que tu as un petit mot pour la fin également?
Merci à toi Romain pour cette belle émission, que ce soit pour le débrief comme ce beau point mercato qu'on a fait tous ensemble, ça fait du bien d'en parler. Mine de rien, on est en train d'enchaîner les victoires depuis quelques temps, donc c'est important de le souligner. On espère se retrouver dimanche prochain avec une petite victoire contre Montpellier avant ce huitième de finale contre Sochaux, ce serait l'idéal. Donc tout va bien, passez tous une bonne semaine et puis à la semaine prochaine.
Voilà, et puis pour conclure cette émission, Léo, merci à toi d'avoir participé. Est-ce que tu as un petit mot également pour terminer?
Ouais, merci Romain, merci Kylian et Mathis, et puis merci à toutes et tous qui nous avaient écoutés et participé avec nous sur cette émission. C'était très agréable, et comme l'a dit Mathis, passez une bonne semaine, et on espère effectivement vous retrouver avec les fameux points dans la besace la semaine prochaine, après Montpellier, après un nouveau match à 17h samedi, horaire... Ouais,
oh, horaire de football, finalement.
Oh non, en vrai, ça me saoule. Le samedi 17h, hein. Horaire infect. Et puis en plus, il ne va pas y avoir le RCK qui sera là. En vrai, ça va être un cimetière, le stade. Ça va être chiantissime à mourir.
Espérons mais que les joueurs fassent le taf sur le terrain en tout cas.
Mais on est toujours content de revenir dans la deuxième maison, donc voilà. Et puis ah ben si, j'en profite. On est le 28 janvier 2024. On a officiellement commencé à communiquer sur l'arrivée de l'invité de Rond Central épisode 5 du 7 février prochain. Il y a eu un teaser qui a été publié sur mon compte Twitter, celui de Radio Roison. Donc n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil. Et la vidéo officielle avec l'annonce de l'invité sera publiée le 31 janvier, donc mercredi prochain. Voilà, donc c'est le seul truc que je peux vous dire. Invité de Rond Central, on a le droit de savoir. Non, vous ne serez pas ce soir, vous serez mercredi prochain. Mais comme ce qui était mis dans le teaser, c'est un invité exceptionnel et j'ai très très hâte de faire cette émission-là parce que je pense qu'on va se régaler. Voilà, merci à tous, bonne semaine et puis prenez soin de vous surtout, c'est le plus important.
Ouais, hâte aussi à cette émission, il y a énormément de choses qui arrivent, il va y avoir Sochaux, le lendemain vous avez le Rond Central, ensuite vous avez Milan, bref ça va être incroyable. Merci à toutes et tous de nous avoir suivis, merci pour vos très très nombreux commentaires ce soir, vous étiez encore très chaud dans les commentaires. Grosse dédicace également à toutes celles et ceux qui nous écoutent en podcast dès le lendemain, puisque encore une fois, le podcast de Radio Roison et du débrief et également de Rond Central fonctionne énormément. Merci beaucoup pour vos retours. N'hésitez pas d'ailleurs à noter ce podcast puisque ça nous aide énormément. Bref, merci à toutes et tous de nous avoir suivis. On se retrouve donc dans une semaine pour un nouveau débrief. Et d'ici là, je vous souhaite une très bonne semaine. Salut tout le monde.